IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Nous sommes le 5 janvier 2026. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et douce nouvelle année. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Mes invités du jour sont avocats en droit civil avec des particularités et des spécialités en droit bancaire et droit de la consommation et je les remercie vivement d'être venus partager cette matinée avec nous. Bonjour Maître Axel Calvé.
Bonjour Sonia.
Bonne année.
Bonne année, merci. Bonne année à tous les auditeurs de IDFM Anguin.
Vous êtes associé du cabinet FEDARC, qui est un cabinet interbarreaux, Val d'Oise, Paris et Haute-Loire.
Oui, effectivement.
Vous êtes presque partout, alors finalement vous vous étendez sur le territoire français.
On étend notre toile, c'est effectivement notre objectif.
Votre cabinet intervient en droit immobilier, droit de la famille, préjudice corporel, droit des contrats, droit des sociétés, droit du travail, droit de l'urbanisme, droit de la fonction publique et droit de la consommation. Vous nous expliquerez votre parcours et vous nous présenterez votre cabinet dans quelques instants. À vos côtés, Maître Thomas Yézil, bonjour.
Bonjour Sonia.
Bonne année, très cher confrère.
Bonne année également, et bonne année à tous nos auditeurs.
Vous êtes associé du cabinet Alti Avocat, est-ce que je prononce bien ?
Tout à fait.
Qui est situé à Enghien-les-Bains ?
Très proche d'ici.
Voilà, vous êtes un voisin d'IDFM Radio. Votre cabinet intervient en droit des affaires, fiscalité, société, sociale, commerciale, droit bancaire et en droit de la famille et du patrimoine.
Tout à fait.
Bienvenue à tous les deux et merci d'être mes invités sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de l'émission Tous les droits. Une émission à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Et tout de suite, je me tourne vers vous. Maître Axel Calvé. Mon très cher confrère, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous est venue cette idée de devenir avocat? Quel est votre parcours au sein de l'université, puis après peut-être de l'EDAC?
Oui, effectivement, à l'EDAC.
Et après, au sein de ce beau cabinet dont vous êtes devenu associé.
Oui, alors, pour résumer, l'attrait pour le droit m'est venu assez tôt finalement, c'est dès le lycée en tout cas que je me suis dit que je souhaitais évoluer dans le milieu du droit. C'était une voie possible et c'est après j'ai fait un parcours classique de 5 années en université. J'étais pas forcément sûr au départ de faire magistrat, avocat ou autre chose. Finalement, quand même assez vite, c'était le barreau que j'ai commencé à viser. Donc voilà, les 5 années de fac, une fois le master 2 en poche, l'examen d'entrée au barreau, l'EDAC en l'occurrence, 2 ans. Puis j'ai prêté serment, c'était il y a... Eh ben on est en janvier 2026, ça fait 10 ans.
Ah,
enfin j'ai prêté serment en novembre de l'année dernière, en novembre 2015 pardon, et ça fait depuis janvier 2017, donc voilà, ça fait 9 ans que je suis au sein du cabinet FEDARC, d'abord comme collaborateur, comme associé depuis 2022. Fidèle au Val d'Oise en tout cas et au cabinet FEDARC dans lequel j'ai fait assez rapidement mes premières armes.
Et donc votre parcours en tant qu'étudiant en droit, vous aviez un master 2 dans quelle matière?
Alors j'ai fait un master 2 de droit pénal de l'entreprise, ce qui est assez différent de ce que je fais au quotidien. Mais pourquoi en fait bon, on se cherche tous. Je pense que mon confrère à ma droite et même vous, Sonia,
qui sont passés à ce micro ont à peu près
c'est quand même
discours.
C'est ça. C'est une histoire assez récurrente. On fait des études et puis à la fin, quand on est vraiment les mains dans le cambouis, on fait quelque chose de très différent. Je ne suis pas différent de ce point de vue-là. Simplement, avec du droit pénal de l'entreprise, je me serais plus destiné à des gros cabinets à Paris par exemple, à Lille, Lyon. C'était pas ce que je souhaitais. Je souhaitais au contraire être dans un barreau à taille humaine, comme l'aile valdoise, ce qui supposait donc d'avoir une activité plus généraliste, en tout cas au début, et de trouver sa voie dans la pratique. Et je ne regrette rien. C'est exactement ce que je souhaitais faire.
Vous êtes à votre place.
Je suis à ma place.
Et alors, au sein du cabinet FEDARC, vous gérez un secteur en particulier ?
Oui, alors j'en gère même deux, si on puis dire. Alors, c'est là où le droit pénal de l'entreprise revient en scène. C'est moi surtout qui, au sein du cabinet, fais le droit pénal. Le préjudice corporel en particulier, qui est une composante assez significative. On en a quand même pas mal. Et je fais beaucoup de droit civil, de manière assez large, beaucoup de droit immobilier. Beaucoup. Alors, immobilier, on entend copropriété, on entend baux d'habitation ou commerciaux, les ventes immobilières, troubles anormaux du voisinage. Voilà. Et puis, je fais d'autres choses qui concernent les véhicules, les contrats bancaires. Enfin, voilà. J'ai cette partie-là. Et ça me permet, en même temps, ce que je viens de définir est assez varié, et c'est très bien, parce que ça permet de pas être tout le temps sur le même type de dossier, de s'aérer un peu l'esprit et de rester assez affûté.
Et puis le raisonnement juridique, il est rigoureux, il est toujours le même. Après, les matières et les règles que l'on applique diffèrent.
Ah ça, oui, bien sûr.
Mais le raisonnement et votre formation, vous la mettez à profit dans les différents secteurs que vous avez rappelés à l'instant.
Exactement.
Et vous êtes un avocat très engagé au sein du barreau du Val d'Oise et puis au niveau national. Est-ce que vous pouvez rappeler les casquettes que vous avez endossées pour les jeunes avocats notamment?
Effectivement, j'ai été président de l'Union des jeunes avocats du Val d'Oise. C'était déjà il y a quelques années, mais j'ai fait ça pendant 2 ans. 2018-2019, jusqu'en début 2020 finalement. Je fais toujours partie du bureau actuel de l'UGIA, qui est actuellement présidé par Lorraine Seigne. Et au niveau national, donc je suis un membre assez actif de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, FNUJA. J'ai été au bureau en tant que secrétaire général. Aujourd'hui, je préside la commission droit civil, procédure civile. Donc, je suis régulièrement au fait de l'actualité juridique, et enfin je tâche modestement en tout cas de contribuer au sujet qui nous anime. D'ailleurs, peut-être en parlerons-nous un petit peu.
Nous en reparlerons bien évidemment après avoir répondu aux questions des auditeurs notamment. Alors les jeunes avocats, c'est quoi un jeune avocat? Il y a des conditions pour représenter ou être un jeune avocat?
Oui, alors on peut trouver des acceptations de ce qu'est le jeune avocat. Il y a deux définitions. Mais en tout cas, pour l'Union des jeunes avocats, les unions de jeunes avocats partout en France, la définition, c'est 40 ans et moins. En fonction de l'âge à partir duquel on prête serment, finalement, on peut rester plus ou moins longtemps en tant que membre actif d'une UJA. Maintenant, il y a beaucoup de membres l'UJA qui ont passé cette période, mais qui restent malgré tout autour, qui gravitent autour, qui soutiennent les jeunes générations. Et fondamentalement, l'idée derrière, c'est de laisser les commandes aux jeunes, de les aider à voir imaginer ce qu'est la profession de demain. Quand on a déjà 20 ans de barreau, qu'on est bien installé, on a peut-être on peut avoir des idées, mais enfin, il faut savoir passer le relais. C'est un peu la dynamique. Et puis après, il y a aussi le jeune barreau. Il y a des jeunes barreaux qui existent un peu partout dans le Val d'Oise. Et là, je crois, je me tourne vers Thomas. C'est 10 ans de barreau, 10 ans de barre. Peu important l'âge.
Exactement, c'est ça. Le jeune avocat dans sa pratique, en fait.
C'est ça.
Moins de 10 ans, c'est ça ?
Moins de 10 ans que pour les comités jeunes barreaux qui existent un peu partout en France. Bon, voilà, on peut rentrer dans les deux définitions ou dans l'une seulement. Mais c'est des comment dire, c'est des fonctionnements un peu différents. Ça se
recoupe, mais effectivement, le CJB qui est le pendant de l'UJA, mais on va dire sans vision politique de la profession, s'adresse aux avocats qui sont dans une jeune pratique de la profession, c'est-à-dire moins de 10 ans d'exercice, peu importe l'âge de l'avocat.
Oui, parce que je précise, l'UJA et la FNUJA, ce sont des syndicats. C'est vrai que la notion n'a pas été particulièrement évoquée, mais ce sont des syndicats. Okay. Donc... Alors, pas des syndicats de salariés comme on a l'habitude d'en connaître, mais qui défendent les intérêts de la profession. Pas spécifiquement non plus les intérêts des jeunes avocats. C'est simplement que on a peut-être plus ce tropisme qu'un autre et on prétend pouvoir être davantage tourné vers demain, finalement, de ce quoi sera constitué l'avenir de la profession.
Bon, merci pour votre engagement. Je précise aussi que l'UJA du Val d'Oise organise des événements aussi festifs, anime la vie collective des avocats du barreau du Val d'Oise. Alors il y a des événements ponctuellement.
Des formations. Alors fin novembre, par exemple, on a organisé les ateliers de la procédure à l'intention de... c'était les ateliers de l'installation qui ont été organisés pour aider les jeunes avocats à s'installer vraiment, soit qu'ils aient déjà commencé, soit qu'ils soient collaborateurs et qu'ils aient l'intention de s'installer, poser leur plaque, de s'associer. C'est l'un de la FNUJA organise différents ateliers de cette nature, installation, procédure, égalité, protection sociale. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui sont proposées. L'UJA peut tenir ça ou alors des formations plus spécifiques, en tout cas à l'échelle du barreau. Des événements festifs en décembre dernier, par exemple, on a organisé conjointement avec le CJB un futsal. Oui. C'est ça, c'était le...
qui est réorganisé cette année d'ailleurs.
Je parle de 2025. Donc oui, peut-être le ferons-nous en 2026. donc en tout cas ce que cherche à faire l'UJA, c'est organiser des événements sérieux, utiles, on va dire, à la profession en tant que telle, mais aussi des événements plus festifs pour créer du lien entre, pas simplement d'ailleurs entre les jeunes, entre toutes les générations d'avocats, et que l'on s'y sente bien dans la profession, dans le barreau du Val d'Oise.
Ben merci, c'est une action réussie. Maître Thomas Yézil, alors même question que pour notre confrère. Comment avez-vous décidé d'être avocat ?
Eh bien, c'était pas prévu. Mais ne sachant pas trop quoi faire après le lycée, j'ai fait du droit. Et puis après, la vie faisant, les études avançant, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ce que j'ai appris à l'école. Alors la magistrature s'est exclue, puisque moi je suis un indécis fini. Et l'avantage de la profession d'avocat, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir. Notre client nous dit, c'est ça, alors nous, on défend ce que le client nous dit. Et donc logiquement, je me suis tourné vers la profession d'avocat. J'ai fait mes études à Cergy-Pontoise pendant 3 ans. J'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger avec l'université de Cergy-Pontoise. Donc j'ai fait une année d'études à l'étranger au Danemark, et c'était très bien. Et ensuite, j'ai enchaîné avec deux Master 2 à Dauphine, donc un premier Master 2 en droit bancaire et financier, et un second Master 2 en fiscalité de l'entreprise, ce qui m'a mené donc à commencer ma carrière en tant que fiscaliste d'abord dans des banques françaises, puis en cabinet d'avocat.
Très bien. Alors, je vous propose, avant de poursuivre sur votre parcours, de marquer une première pause musicale avant de retrouver mes deux invités de ce jour dans cette émission consacrée ce matin au droit bancaire et au droit de la consommation.
Craquer à pleurer de rage. Le nombre de prières d'en serrer pour que ça marche. Le nombre de déceptions, de trahisons t'a pas aidé. Frère, laisse tomber, je crois qu'on va jamais y arriver. J'aurais pu être youtubeur, mais j'aime trop le rap. 2011, première partie de ces fûts en concert sur les marches. Quand ça marche, tellement pas que tu te questionnes. Les festivals à 15h devant personne. Quelle vie qu'on me présente l'auteur du scénario. À Toulouse, je déplace les foules comme Messi à Rosario. Je veux le cash, le Wally, je veux les pièces comme Wario. Je sais pas m'aimer, donc je me fais des cadeaux. Je ramène les potes d'enfance dans une grande villa. Parti de voler dans la piscine, verre de sangria. Et le temps passe trop vite, comment je le rattrape. Mes cachets font que parfois je fais des blackouts. Yeah.
Yeah. Les temps sont difficiles, mais j'avance quand même. J'écris voir un missile à travers la fenêtre. Est-ce qu'on est obligé de mourir pour renaître? Est-ce qu'on est obligé de mourir? Na, 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 na.
Avec mon ex, 20 minutes après mon pote m'annonce qu'il va se marier. J'aurais pu presque le parier, comme si le destin charriait. Mon trouble obsessionnel, ma vie personnelle, l'inverse de ma réussite professionnelle. Ces temps-ci, je vois moins ma mère que ma psy. Me manque 2 heures de sommeil, je finis ma nuit dans le taxi. Déprimé à 9, motivé à 10h. Je veux regarder la vie comme Ariana regardait Mac Miller. C'est ça ma vie de rappeur, vacciné aux haters, détecteur de gratteurs. Petit frère, je sais pas faire de choix, je sais pas dire quand c'est grave. Je m'inquiète que quand faut s'inquiète pour moi. Mon père me raconte l'époque où il faisait la manche autour d'un cocktail. Il me dit tant qu'on part, je m'en fous du nombre d'étoiles de l'hôtel. Les moments sont trop courts, depuis qu'on vend des disques. Bien sûr qu'il kiffe sa Rolex, mais lui il veut du temps avec ses fils. 2 semaines de pause, faut que je me repose. On retrouve les potes, maison sur la côte, en détox. J'efface tous mes tocs, fallait que je dorme. Y'a que moi que ça étonne, je vous l'accorde. Mais dans cette vie hors norme, depuis gosse, j'ai perdu les codes. Ouais. Tant que j'ai pas perdu la tête, je me dis que tout va bien, tout va bien. À force de vivre comme si j'allais mourir demain, je vais peut-être mourir demain. Yeah.
Les temps sont difficiles, mais j'avance quand même. J'écris voir un missile à travers la fenêtre. Est-ce qu'on est obligé de mourir pour renaître? Est-ce qu'on est obligé de mourir?
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, vous écoutez l'émission Tous les droits, une émission ce matin consacrée aux droits bancaires et aux droits de la consommation avec maître Axel Calvet et maître Thomas Yézil que j'interrogeais sur son parcours et ses motivations pour devenir avocat. Maître Thomas Yézil, vous avez un parcours fascinant, donc vous avez voyagé, vous avez été juriste dans des banques, et oui. Maintenant, que faites-vous ?
Eh bien, je suis revenu dans le Val d'Oise. Alors moi, je suis né à Argenteuil, mes parents habitent à Pontoise. Je suis du coin, on va dire, pour avoir, comme le disait mon confrère Axel, une activité un peu plus généraliste. Et mon projet entre guillemets, c'était de m'adresser à des PME, de mettre au service de ces PME ce que j'avais pu apprendre dans ces grandes sociétés ou dans ces cabinets d'avocats parisiens, et de devenir un peu le couteau suisse du chef d'entreprise. dans son activité quotidienne. Donc effectivement, ça passe de la création de société à la restructuration d'activité. La fiscalité, puisque la fiscalité, vous le savez comme moi, est au cœur de nos activités professionnelles. Le droit du travail, parce que on a des relations avec nos salariés et on a besoin de pouvoir les gérer sans forcément avoir de service RH ou d'avoir les moyens d'avoir des employés RH dans nos sociétés. Et donc évidemment tout le contentieux qui peut naître au cours d'une activité commerciale. Voilà, mon objectif, c'était moi clairement que un dirigeant de PME qui n'a pas les moyens de se payer tous ses services au sein de sa société puisse avoir un seul réflexe, prendre son téléphone et me passer un coup de fil pour que je puisse l'assister. J'ai commencé donc en tant que collaborateur dans le cabinet dans lequel j'exerce aujourd'hui. Je suis associé avec Aude Lapalu, qui est le AL de Alti Avocat. Ça a d'abord été ma patronne, et puis je suis devenu son associé lorsque son ancien associé est parti à la retraite. Elle a une pratique qui n'est pas du tout la même que la mienne, puisqu'elle fait du droit de la famille. Mais en fait, on arrive à trouver de bonnes synergies dans nos cabinets, parce que les chefs d'entreprise ont aussi une famille, et les gens qui ont des problèmes familiaux ont aussi, de temps en temps, des entreprises à gérer. Donc, ça fonctionne très bien. On se connaît depuis maintenant 10 ans et tout se passe pour le mieux.
Alors, vous avez prêté serment quand, vous, à 10 ans déjà ?
Presque, puisque moi, j'ai prêté serment en juillet 2016.
Voilà, ouais. Je suis en train de faire le calcul. Oui, 10 ans, d'accord, très bien. Ok, alors, merci pour cette présentation. Alors, moi, j'ai encore quelques questions pour vous. Au sein de ce cabinet, vous êtes donc deux associés. Vous avez des collaborateurs, des... secrétaire peut-être.
Alors on a deux assistantes qui nous aident beaucoup, puisque lorsqu'on est en audience, il faut que quelqu'un puisse répondre au téléphone et puis continuer à faire tourner le cabinet. On aimerait recruter un collaborateur éventuellement, voire deux, mais on a de vrais problèmes de main-d'œuvre dans le barreau du Val d'Oise et mon confrère pourra le confirmer.
Je confirme.
C'est assez compliqué d'attirer de jeunes collaborateurs au sein de nos cabinets.
Oui, alors c'est une difficulté de recrutement que connaissent les avocats du barreau du Val d'Oise, mais aussi les avocats d'autres ressorts. Hein, dès qu'on cherche peut-être des profils peut-être un peu, entre guillemets, spécialisés, c'est peut-être plus difficile. Comment vous expliquez d'ailleurs ces difficultés, vous, de recrutement ? Est-ce que vous avez une piste de réflexion ? Parce que c'est un vrai sujet.
On a un peu de mal à les expliquer, à vrai dire, mais...
Moi, j'en ai... Une peut-être que l'on évoque assez régulièrement. Il y a eu un avant et un après Covid.
C'est vrai.
Voilà. Partant de ce constat, pourquoi ? Parce que avec le Covid, il y a beaucoup de collaborateurs qui ont pu être mis de côté dans certains barreaux. Alors, je pense pas que dans le Val d'Oise ça a été trop le cas, mais il y a eu. En tout cas, une volonté d'indépendance aussi qui s'est affermie peut-être très tôt chez la génération d'alors, qui s'est aperçue que, mais en fait, on pouvait télétravailler, on pouvait, comment dire, organiser son temps personnel beaucoup plus facilement que ce que s'y était plus ou moins imposé par les cabinets dans lesquels on exerçait. Et ce que je ressens, en tout cas depuis cette période, c'est que désormais, il y a beaucoup plus chez les nouveaux arrivants, les nouveaux entrants, la volonté de battre très vite de ses ailes, c'est-à-dire de poser sa plaque très rapidement, peut-être immédiatement après la prestation de serment, ce qui a toujours existé, mais la proportion est plus importante, et de ne faire qu'une partie plus... une période de collaboration qui pouvait peut-être durer en moyenne, allez, 4, 5 ans, 6, mettons, avant de se décider à décoller. Là, ce serait plutôt 1 an, 2 avant de bifurquer. Et donc voilà, je te regarde Thomas.
C'est vrai, c'est une des explications. Moi, j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais ce que dit Axel est vrai. On a de plus en plus de jeunes confrères qui s'installent immédiatement ou très rapidement après avoir prêté serment, ce que moi j'aurais été incapable de faire à l'époque où j'ai prêté serment.
Mais moi aussi, clairement.
Je ne serais pas senti capable de le faire, je pense. Mais
oui, parce que c'est une profession d'abord très exigeante, très concurrentielle, qui nécessite d'être un très bon juriste, mais au-delà de ça, d'être un très bon chef d'entreprise aussi, parce que il faut pouvoir démarcher alors dans des proportions raisonnables, puisque nous sommes liés par un code de déontologie, donc on ne peut pas démarcher de manière sauvage. Mais enfin, il faut faire un travail de prospection de clientèle. Ensuite, Maître Thomas Yézil, vous êtes Maître Axel aussi Calvé, vous avez tous les deux des salariés qu'il faut gérer. Donc, vous êtes aussi des chefs d'entreprise. Oui. Nous sommes tous des chefs d'entreprise. Et à ce titre-là, c'est d'ailleurs une partie importante de votre temps, parce que, sauf faire de ma part, vous êtes membres l'un et l'autre de BNI.
Alors oui, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est un BNI très très actif. On est 24 membres, donc tous les jeudis matins, je retrouve à Taverny des chefs d'entreprise de tout horizon, et on fait de la recommandation d'affaires mutuelle. Ça fait depuis 8 ans que je fais ça. J'y ai rencontré des amis, mais au-delà de ça, oui, j'ai forgé des relations d'affaires assez solides, pour soit à titre personnel, soit que j'ai pu effectivement répondre à des besoins de mes membres ou de relations de mes membres. Et donc c'est une manière, bien sûr, de trouver de la clientèle. Il faut se faire connaître, et c'est ça aussi la réalité d'un chef d'entreprise, c'est que il faut pouvoir faire de la prospection. Et je me tourne vers Thomas. Toi aussi, tu connais ça.
D'ailleurs, c'est Axel, moi, qui m'a introduit au BNI. Alors, je précise pour nos auditeurs, moi, je connais Axel depuis que je suis arrivé dans le barreau du Val d'Oise, puisque c'était le président de l'UJA lorsque j'étais très jeune avocat au barreau du Val d'Oise. Donc, on se connaît depuis quelques années. C'est Axel qui m'a invité à sa première réunion, enfin à ma première réunion BNI, qui n'était pas à sa première, évidemment. Et j'ai également adhéré à un groupe BNI, moi, à Argenteuil. Alors, par manque de collaborateurs, donc par manque de temps, je dois trouver d'autres façons de prospecter. Mais effectivement, le BNI, c'est un réseau d'entrepreneurs qui est merveilleux, puisqu'on rencontre des gens toutes les semaines. On rencontre les membres de notre groupe, qui deviennent donc forcément des connaissances, voire des amis, toutes les semaines. Et il n'y a rien de mieux que des gens que l'on croise régulièrement pour nous recommander auprès de leurs propres contacts, et donc démultiplier le bouche à oreille qui nous est si cher, nous, en tant qu'avocats.
Oui, parce que le premier apport de clientèle, c'est tout de même les recommandations de nos clients. C'est toujours nos meilleurs communicants, nos clients qui nous recommandent, parce que souvent, quand on cherche un avocat, on s'adresse à ses amis. Est-ce que tu connais pas un avocat? Ah bah si, j'en ai un super, il m'a aidé. C'est comme ça que ça fonctionne d'abord.
C'est exactement ça.
Merci pour toutes ces précisions. Maître Thomas Yézil, mais vous aussi, vous avez contribué à l'activité de notre barreau. Vous êtes du comité Jeunes Barreaux ?
Exactement. Alors, je l'ai été. Je ne le suis plus non plus. Mais j'ai été pendant 2 ans au bureau du CJB, donc du comité Jeunes Barreaux, ce dont on parlait tout à l'heure avec Axel, qui est un peu le pendant de l'UJA, mais qui, cette fois-ci, a vraiment vocation à s'adresser aux jeunes confrères et à les aider dans leur pratique. Donc, on a moins cette activité de lobbyisme, entre guillemets, pour la profession d'avocat de façon générale. On est vraiment là en support des jeunes avocats pour toutes les questions qu'ils pourraient avoir dans le cadre de leur collaboration ou de leur installation, hein, parce qu'on ne fait pas de distinction entre les jeunes avocats collaborateurs ou les jeunes avocats qui travailleraient à leur compte. Et voilà, si on a une difficulté dans sa collaboration, on peut s'adresser au CJB. Le CJB siège au Conseil de l'Ordre, sans pourtant avoir de voix qui ne vote pas au CJB, mais au Conseil de l'Ordre. Peut faire remonter les doléances des jeunes confrères auprès des membres du Conseil de l'Ordre, et donc avoir une action sur la problématique en question. On a aussi des problématiques de comptabilité, parce que c'est pas forcément évident quand on s'installe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a l'aspect avocat, évidemment, mais on a l'aspect gestion d'entreprise, l'URSSAF, les impôts, tout ce qui doit ben, faire le fonctionnement quotidien d'une entreprise, on peut avoir besoin d'aide lorsqu'on s'installe et que on a jamais fait ça. Donc le CJB est aussi là pour ça.
Merci à vous pour cet engagement. Moi, je me rappelle, c'était il y a 200 ans, hein. je me rappelle de la discussion que j'avais eue avec le bâtonnier de l'époque sur la nécessité de créer un CJB pour s'affranchir un peu, voilà, des syndicats qui représentaient uniquement les jeunes avocats à l'époque. Et donc, c'est ce CJB qui a été créé il y a quelques temps sous l'égide du bâtonnier Zajac, je crois,
oui,
de mémoire.
C'était le bâtonnier qui... au moment où j'ai prêté serment, mais j'ai compris que c'est la création du CJB était en train de se faire au moment où je prêtais serment.
Oui, mais parce que c'était une conversation que j'avais avec le bâtonnier à l'époque dans un voyage au Québec. On allait voir des confrères québécois et ce long trajet du retour avait été l'occasion de plein de discussions avec notre confrère Zajac. Et on avait à l'époque évoqué la création de ce CJB. Et donc voilà, je suis très contente.
J'en apprends aujourd'hui.
Voilà. Moi, ancienne avocate du barreau du Val d'Oise, que ça a perduré et que c'est aujourd'hui toujours d'actualité. Donc merci à vous deux pour vos engagements pour les jeunes avocats et les moins jeunes du barreau du Val d'Oise. Je vous propose maintenant de répondre aux questions de nos auditeurs et c'est vous, maître Axel Calvé, qui allez répondre à cette première question. Mais avant ça, un petit peu de musique. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
She got away. Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit bancaire et en droit de la consommation. Et nous allons maintenant répondre aux nombreuses questions des auditeurs adressées à Maître Axel Calvet. Mon très cher confrère, une première question pour vous. J'ai effectué un trajet en avion de Paris à Dublin. En arrivant à destination, je n'ai pas retrouvé ma valise. Elle contenait des bijoux de valeur et mon iPad. J'ai effectué une déclaration à la compagnie aérienne qui me propose une somme dérisoire à titre d'indemnisation. Est-ce que je peux engager une procédure judiciaire à l'encontre de la compagnie aérienne ?
Alors, la réponse est oui, mais je ne pense pas que cela apporte le résultat escompté.
Je déroule.
La perte de bagages, c'est quelque chose qui est prévu, notamment au terme de la convention de Montréal, puisque là, bon, j'ai compris que c'était une liaison France-Irlande, donc on est dans des pays signataires ayant ratifié la convention de Montréal sur le transport aérien. Bien. Cette convention a prévu que en cas de perte de bagages, donc il y ait des plafonds d'indemnisation pour les pertes. Alors c'est, si on rentre un peu dans le détail, c'est, le montant c'est 1288 droits de tirage spéciaux DTS. C'est assez technique à expliquer, mais bon, en gros, retenons que avec le cours de l'euro, ça équivaudrait à quelque chose comme peut-être 1 500 euros à vérifier. Hein, c'est mouvant de toute façon. C'est un plafond d'indemnisation. C'est un plafond d'indemnisation. C'est pas normalement, il faut pouvoir apporter des justificatifs de ce qu'il y avait dans le bagage, et on n'a pas ces 1288 DTS qui nous sont attribués de droit.
D'accord.
Premièrement. Mais surtout, et c'est là, à mon sens, qu'est le problème avec la question de votre auditeur, c'est que il y avait des objets de valeur dans ce bagage, des bijoux, un iPad, et à mon sens, surtout s'agissant des bijoux en réalité, il aurait fallu faire une déclaration spéciale d'intérêt, parce que on n'est pas forcément un transporteur, il transporte qu'est-ce qu'on met dans les bagages, des vêtements, on met du nécessaire de toilette, etc. On n'est pas forcément censé y mettre des bijoux de valeur. En tout cas, quand on peut le faire, mais il faut en avertir le transporteur. Et ce faisant, avec ces déclarations d'intérêt, il serait amené, censément, à vous faire payer un droit spécifique. Ce n'est pas gratuit de faire une telle déclaration. Comme ça n'est pas évoqué dans la question, je pressens, je devine qu'il n'y a pas eu cette démarche d'accompli. De sorte que la contestation... Je devine aussi que s'il y a eu une proposition d'indemnisation assez faible, assez dérisoire, au regard de la valeur des biens, c'est bien qu'il n'y a pas eu cette déclaration de fait. Et donc, on peut toujours essayer de contester devant un conciliateur ou un médiateur de la consommation, et puis aller devant le tribunal compétent, territorialement. Et voilà. Mais je pense... C'est, si vous voulez, là, on répond... Ça sera d'ailleurs assez commun avec toutes les questions auxquelles je répondrai. Les questions sont assez courtes, par nature, enfin c'est la nature de l'exercice. Il y a des choses que je ne sais pas. C'est pour ça aussi que je me tourne vers mon confrère, d'avoir les pièces du dossier,
voilà,
pour pouvoir important. Répondre avec le plus de précision possible. C'est pour ça qu'on en fait des consultations qui durent une heure. Mais là... À force, je sais lire certaines choses entre les lignes. Et donc, en l'espèce,
ça m'apparaît compromis.
Très bien, c'est très précis, avec les éléments dont vous disposez. C'est un message effectivement qu'on adresse régulièrement dans cette émission aux auditeurs. Mmh. Chaque cas doit être étudié spécifiquement. Voilà, mmh. Souvent on entend, oui, mais j'ai un copain, lui, il a obtenu une indemnisation. Oui, très bien, mais c'est le copain. Chacun est différent, donc vous, vous pouvez conseiller ou indiquer à cet auditeur, effectivement, que c'est pas forcément une certitude d'obtenir plus que la proposition qui a été adressée par la compagnie d'assurance. Il y a des prérequis qu'il faut vérifier avant de pouvoir engager une action judiciaire éventuellement.
C'est exactement ça. Et si, peut-être qu'il y a moyen d'obtenir un peu plus à partir des justificatifs d'achat, d'objets, etc. Mais quand on parle de bijoux, il aurait fallu faire une déclaration d'intérêt spécifique. Si elle n'a pas été faite, là je ne vois pas qu'il puisse y avoir une issue positive, en tout cas une meilleure issue attendue pour votre auditeur, hélas.
Très bien. Et donc, vous avez quand même dans votre réponse indiqué des éléments intéressants, c'est-à-dire qu'il y a aussi des procédures amiables, il y a des médiateurs. Mmh. Donc, le recours au juge, il n'est pas automatique et direct. Il y a des procédures amiables
à
respecter ou à encourager, en tout cas.
Alors, c'est une approche qui est de plus en plus encouragée de par la loi, finalement, depuis... Je simplifie à l'extrême, mais depuis 2020, on impose aux justiciables que dans les litiges dont l'enjeu financier est inférieur à 5000 euros plus certains types de typologies de contentieux, je pense en particulier aux contentieux troubles anormaux du voisinage, de recourir préalablement à une action judiciaire, à l'intervention d'un conciliateur de justice, d'un médiateur judiciaire, pour ma part, je l'ai encore jamais constaté, mais de faire des procédures participatives. Je sais que ça existe et que certains confrères le font. Moi, j'ai jamais eu la pratique. Ce que je vois, par contre, c'est bien les conciliations et les médiations. Conciliation, l'un des intérêts de cette démarche, c'est qu'elle est gratuite. Les conciliateurs de justice sont des bénévoles qui tiennent des permanences dans les mairies, dans les maisons de justice et du droit, voire dans les tribunaux de proximité aussi. Ils couvrent à peu près tout le territoire, en tout cas dans le Val d'Oise, tout le territoire est couvert, le Vexin aussi. Et quand on est dans des situation de cette nature, il faut pas s'en priver de toute façon. Souvent, même avant que l'on vienne me voir, la tentative a eu lieu. C'est donc c'est un réflexe qui est plus ou moins connu. Je pense dans la population, c'est tant mieux. Parfois, par contre, oui, ça n'est pas suivi. Bon, on dirige, on peut accompagner d'ailleurs dans les conciliations de justice. J'ai un client qui m'a appelé pour ça d'ailleurs, spécifiquement pour ça avant les vacances, donc c'est de Noël. Donc voilà, ça arrive. Maintenant, il se peut aussi que, alors qu'on soit, on ait engagé l'action, que l'on nous dirige vers, alors on appelle ça les mardes, on aime beaucoup les sigles dans le droit, oui. Mode alternatif à la résolution des différends. Donc une médiation judiciaire, on nous parle aussi de faire d'avoir un juge qui, dans une audience de règlement amiable, enfin il existe toutes sortes de processus, je sais. Je pense pas qu'on ait le temps de tout dérouler. Je pourrais, mais je pense pas que ce soit l'intérêt de l'émission. Mais
alors, merci d'en parler. J'en parle régulièrement, mais vous l'avez rappelé, on assiste quand même à une mobilisation autour de ces modes alternatifs de règlement des différends. Voilà, ça, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Les avocats peuvent vous accompagner dans ces démarches de conciliation. Et dans ce type de litige, souvent, on conseille aussi à nos clients de se rapprocher de leur protection juridique. C'est un dispositif que vous utilisez. Vous pourriez rappeler rapidement ce qu'est le principe de la protection juridique.
Oui,
tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une question d'ailleurs que je pose systématiquement à mes clients, de savoir s'ils ont une assistance, une protection juridique. L'intérêt, c'est que cette assistance juridique peut prendre en charge au moins une partie des frais de justice que l'on serait amené à avancer dans le cadre d'une action judiciaire, peut-être organiser aussi une expertise pour, je ne sais pas si un véhicule connaît des défauts ou des désordres au sein d'un immeuble, etc. Enfin, ça, et peut apporter des réponses à des questions relativement simples, accompagnées dans la rédaction de courriers. Ce sont des partenaires, en tout cas pour les avocats. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut les voir comme tels. Oui, moi j'encourage dans mon entourage à souscrire à de tels dispositifs. Ça peut être très précieux en fonction de la nature des préjudices, enfin des accidents de la vie que l'on rencontre.
Mais c'est un produit qui est beaucoup vendu par les compagnies, par les assureurs et les banques, parce qu'effectivement, c'est une cotisation de 5 euros par mois. Mais le jour où vous avez un souci d'ordre judiciaire, voilà, si vous êtes pris en charge à hauteur de 2000 euros pour une procédure devant un tribunal, c'est toujours...
Il y a bien sûr des contrats de protection juridique qui sont meilleurs que les autres, oui. Avec des plafonds plus élevés, bien des barèmes d'intervention plus... Il faut faire son marché, mais c'est quelque chose. J'encourage encore une fois vivement les auditeurs à se poser la question de savoir, est-ce que j'en ai un, et peut-être est-ce que j'en aurais pas besoin d'un si c'est pas le cas.
Oui, souci. C'est d'autant plus que les services de protection juridique souvent proposent par leurs juristes de procéder à des rédactions de mise en demeure. Oui. Et si cette mise en demeure n'aboutit pas, là on passe le relais à l'avocat choisi ou l'avocat désigné par la compagnie d'assurance. Merci pour ces précisions, maître Axel Calvet. Nous marquons une nouvelle pause musicale avant de vous retrouver pour une nouvelle question d'un auditeur. À très vite.
We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name. Through all of the madness, I take the blame. And I only want you when you're gone, gone, gone. Playing like we're done, done, done. I love you, yeah. Drive me inside, yeah. I only want you when you're gone, gone, gone. Playing like we're done, done, done. I love you, yeah. Drive me inside, yeah. I only want you when you're gone. I only want you when you're gone. I only want you when you're gone. I only want you when you're gone.
We live a life like I'm up to a flame, but I knew that it was something special from the start. Had a good, bad loving in my heart, and now I need a sequel to the movie that we made. I'll keep on running the scenes of a sad and reckless. All this love, that loving pain, I only want you when you're gone, gone, gone. Playing like we're done, done, done. I love it, yeah.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Mes invités du jour sont avocats en droit bancaire et en droit de la consommation. Mmh. Et nous poursuivons cette émission avec une nouvelle question à l'attention de Maître Axel Calvet. Mon cher confrère, nous sommes sollicités par un auditeur qui a acheté une voiture sur le Bon Coin le 16 octobre 2024. Mmh. Ça date. Ouais. Sur le trajet retour, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué à ses frais. Mmh. Le garagiste lui a indiqué que les travaux de réparation s'élevaient à la somme de 6000 euros, qui est donc une somme supérieure au prix d'achat. Mmh. Il a appelé le vendeur qui refuse de le rembourser, contre restitution du véhicule.
Alors, c'est pas exactement une question, mais j'ai compris que la question c'est...
C'est pas une question, mais c'est une question. Voilà, vous avez compris? Voilà.
J'ai compris. Quoi faire?
Que faire?
Que faire?
D'accord.
Que faire? Bah, bon, c'est 16 octobre 2024, effectivement, ça date un petit peu, mais techniquement, il est encore dans le délai pour exercer une action judiciaire. Oui, il est encore dans le délai, puisque ça s'est manifesté. Le défaut s'est manifesté sur le trajet retour, on peut parler de vice caché, c'est ce qui vient immédiatement en tête, article 1641 et suivant du code civil. On pense aussi à une vente non conforme, ces choses-là. Mais ce qui est étonnant, on va dire, c'est que s'est-il passé finalement dans cette sur cette période. Je comprends qu'il est allé le voir son garagiste, qui lui a proposé de faire des réparations à hauteur de 6000 euros, manifestement pour une valeur supérieure, un coût supérieur à la valeur du véhicule, donc véhicule économiquement irréparable, selon la formule consacrée. Ça justifierait effectivement une résolution de la vente si le vendeur, même si c'est un particulier d'ailleurs, si le vendeur se refuse à procéder à cette résolution de la vente, à restituer le prix de vente en échange du véhicule, une action devant ce serait devant la chambre de proximité, je pense, vu l'enjeu du litige, m'apparaît pertinente. Maintenant, alors j'ai à l'écoute de la question, il y a deux solutions un peu qui me viennent. La première, ce serait pour solidifier le dossier, lui apporter des éléments, d'organiser une expertise. On parlait il y a quelques instants des protections juridiques. Voilà, là, par exemple, vérifier si on n'en a pas une, voir s'il ne peut pas y avoir une expertise d'organiser par sa compagnie d'assurance. Si vous n'en avez pas, si elle ne peut pas l'organiser, on pourrait songer à le faire sur le plan judiciaire, ça existe. C'est toutefois assez coûteux, il ne faut pas se le cacher. Or, au regard de l'enjeu financier qui a l'air d'être si 6000 euros c'est déjà quelque chose de plus élevé que la valeur du véhicule, ça m'apparaît pas forcément être la solution que je recommanderais. Non, là en l'occurrence, je pense qu'il faut aller directement devant le juge du fond, à mon sens, d'y aller avec les éléments du bord. Ce d'autant, et c'était quand même, je pense, assez essentiel dans les données du litige, c'est que le véhicule a eu des défauts, mais dès qu'il a été confié, il a un problème. Je pense que, on pourra difficilement reprocher à votre auditeur un défaut d'entretien. Si dès l'instant où on lui confie les clés du véhicule, ça claque, je pense que il y a un vrai problème. Il faut partir devant le tribunal. Voilà. Pas quelque chose de d'apparent, enfin en tout cas pour le, un profane comme certainement il l'est, là, je pense qu'on peut parler de vice caché, et il n'aurait pas dû être vendu. Le vendeur n'a pas été de bonne foi, je pense, et il y a lieu de réclamer la restitution du prix de vente, sans doute aussi des dommages et intérêts, les frais de remorquage, les frais d'assurance, les cotisations d'assurance qui ont été payées depuis la passation du véhicule. Non, il y a à faire.
Les frais de gardiennage aussi, les véhicules sont entreposés dans des garages pendant plusieurs mois. Et...
Alors, je donne tout de suite ce conseil à l'auditeur. Si vous pouvez le sortir du lieu où il est stocké en échange de frais de gardiennage, faites-le, parce que c'est... vous ne savez pas, finalement, quand est-ce que la situation va se résoudre. Et en attendant, c'est vous qui payez. Donc, si vous pouvez l'entreposer dans votre jardin, ok, c'est pas très agréable, mais c'est toujours mieux que d'aggraver la situation, d'aggraver l'hémorragie.
Oui, on pense pas toujours à ces frais, par exemple, quand on a des litiges pareils, on veut juste récupérer le prix de vente, etc. Donc, d'où la nécessité, dans des situations comme celle-ci, d'aller consulter un avocat, de payer une consultation pour anticiper des procédures ou ne serait-ce qu'avoir des conseils sur les mesures immédiates qu'on peut prendre.
Bien sûr.
Parce que le temps aussi joue parfois
il a l'air d'être assez écoulé, le temps.
Oui.
Alors, c'est pas encore trop tard, c'est vrai, mais enfin ça n'aide évidemment en rien à une résolution rapide de l'affaire.
Oui, alors ça, je le rappelle aussi beaucoup à ce micro avec mes invités, les délais à respecter sur des actions, par exemple en vice caché, c'est 2 ans à compter de la découverte du vice. Le temps passe vite, et si vous ne respectez pas ce délai, vous êtes forclos, vous ne pouvez plus engager d'action sur le fondement des vices cachés.
C'est ça, et croyez bien que, alors là je me tourne vers mes deux confrères. Donc les délais sont notre hantise à nous, avocats. On est diligent, on cherche à l'être en toutes circonstances, et l'une des premières choses que l'on se pose lorsque un dossier nous est soumis, c'est de savoir, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais est-ce que matériellement, est-ce qu'on peut le faire?
Exactement, c'est vrai.
C'est le béaba. Là, en l'occurrence, c'est le cas.
Oui,
on peut faire quelque chose.
Il
reste encore quelques mois, voilà. Mais c'est jamais très rassurant de se dire. Alors, c'est peut-être parce que on voit ça tous les jours, mais c'est vraiment, oui, un peu notre hantise. On est sans doute, d'ailleurs, peut-être plus. Soucieux, bien plus soucieux que de la chose que nos clients.
Oui, mais alors contre, quand vous leur expliquez que c'est trop tard, eux ne comprennent pas. Je ne comprends pas, je ne le savais pas. Mais c'est pour ça que ces émissions existent, c'est pour ça qu'il faut se renseigner sur ses droits. Nul n'est censé ignorer la loi, donc vous êtes un consommateur, vous achetez une voiture, renseignez-vous. Si ça se passe mal, j'ai combien de temps pour agir? Voilà, c'est toujours la vocation de cette émission, c'est de faire beaucoup de pédagogie et d'expliquer. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maître Thomas Yézil, alors moi j'ai essayé de synthétiser les questions que j'ai reçues des auditeurs en crédit de la consommation. Alors vous intervenez du côté des établissements bancaires. Alors j'ai synthétisé, et moi je vous pose la question. En tant qu'avocat représentant des établissements bancaires, quelles sont les problématiques juridiques les plus fréquentes que vous rencontrez dans le cadre des crédits à la consommation?
Alors c'est une réponse qui est assez simple à cette question, parce qu'il faut rappeler que moi, lorsque j'interviens, je n'interviens pas à la rédaction des contrats de crédit. Un particulier qui souscrit un contrat de crédit, il adhère à ce que l'on appelle un contrat d'adhésion, c'est-à-dire que vous avez des contrats types qui sont rédigés par les établissements bancaires et qu'ils soumettent à leurs clients qui souhaitent souscrire un crédit. Vous ne signez ou vous ne signez pas, mais vous n'avez pas vraiment de marge de négociation sur les clauses qui sont contenues dans ce contrat. Donc moi, j'arrive en bout de chaîne et je ne fais qu'appliquer le contrat qui a été signé entre la banque et son client. Donc on va dire que la problématique juridique que je rencontre le plus souvent, c'est le problème du contradictoire. Vous avez généralement un client qui se retrouve à signer et il ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que on doit lui expliquer, nous, que la banque est tenue par les délais. Hein. Je rebondis sur ce que disait Axel, ce que vous disiez tout à l'heure. La banque aussi est tenue par des délais de prescription. Donc, elle assigne ses clients qui ont raté des mensualités ou qui ont stoppé leurs mensualités parce que elle a aussi un délai pour engager son action. Et si elle ne le fait pas, sa créance, elle est perdue. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver assigné pour un problème qui est lié à votre crédit à la consommation, même si vous avez eu votre banque au téléphone, que vous lui avez expliqué le problème et qu'elle vous a dit qu'elle comprenait très bien. Mais pour faire valoir ses droits, elle doit respecter ses délais. Donc, je me retrouve moi parfois en audience face à des clients qui me disent « J'ai pourtant vu avec la banque au téléphone, on s'est mis d'accord sur un échéancier ou pour telle ou telle raison personnelle, je n'ai pas pu payer X mensualité. Moi, effectivement, je ne peux pas le savoir puisque je ne suis pas salarié de la banque et je me retrouve à devoir composer à l'audience avec les pièces qui me sont transmises le jour même et donc adapter la situation afin que tout le monde puisse s'y retrouver.
Donc c'est vous intervenez principalement donc pour des soucis de non règlement de mensualité ou de retard dans les échéances ou de
tout
c'est
à
ça
fait.
Et en face de vous on vous oppose parfois j'imagine un défaut d'information peut-être les arguments en défense.
Oui, défaut, alors
ça peut être quoi par exemple?
Je pensais que j'étais couvert si je perdais mon travail ou si j'avais un problème de santé, ce qui peut être le cas, hein. Vous avez des assurances spécifiques pour ce genre de choses, vous avez le choix de les souscrire ou de ne pas les souscrire lorsque vous prenez un crédit. Effectivement, ça augmente la mensualité et plus vous êtes couvert, plus la mensualité augmente. Certains font le choix d'opter pour cette couverture, d'autres ne le font pas. Et malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup de gens ne lisent pas les contrats qu'ils signent et se retrouvent à devoir le lire le jour où le problème survient. Mais c'est trop tard puisque si le risque n'est pas couvert, il n'est pas couvert.
Donc, faut bien lire toutes les mentions des crédits de conso, même si elles s'écrivent en petit.
Alors, évidemment, la recommandation d'un avocat, ce sera de lire votre contrat lorsque vous signez quelque chose. La moindre des choses, c'est de savoir ce que vous signez. Après, on a tout à fait conscience que certains contrats sont difficiles à lire, mais vous avez quand même des clauses clés, on va dire, celles qui sont relatives aux exclusions ou justement aux choses qui sont couvertes par le contrat. Ça permet quand même d'avoir un bon aperçu du sujet.
Merci beaucoup. J'ai encore des questions pour vous, mais la musique nous attend. Donc, une petite pause musicale avant de vous retrouver.
Un soir de plus, je rentre chez moi. J'ai confié mon cœur à un garçon. Une fois de plus, je comprends pas. J'empile des je t'aime dans des cartons. J'suis toujours trop ou pas assez. J'en ai laissé des larmes sur l'oreiller. Les yeux ouverts, même dans le noir. Personne à côté, sale mood ce soir. J'suis comme toutes les filles. Tu sais, j'ai plus le temps de laisser passer ma vie pour quelqu'un qui m'oublie, pour quelqu'un qui me ment. J'suis comme toutes les filles. J'aimerais de temps en temps un débat le matin. Oh, je t'aime quand je me plains, pas qu'à travers l'écran. J'suis celle qui passe, qu'on remplace, celle qu'on largue derrière un clavier. Par message, sans courage, t'as pris mon cœur et puis tu t'es barré. J'suis pas la seule dans tes messages. J'suis pas la seule à qui tu dis oui. Vas-y dégage, je me choisis. Je suis pas là pour faire joli, juste pour être jolie. J'suis comme toutes les filles. Tu sais j'ai plus le temps de laisser passer ma vie. J'ai peur de me planter, voir la même histoire recommencer. Plus fort que les sourires et les trahisons, je suis là, plus forte que jamais. Je suis comme toutes les filles. Tu sais, j'ai plus le temps de laisser passer ma.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit bancaire et en droit de la consommation. Et nous poursuivons cette émission avec mon confrère Thomas Yézil. Une nouvelle question pour vous, là encore que j'ai synthétisée avec les questions que j'ai reçues. Lorsqu'un litige survient avec un emprunteur, quel est concrètement le rôle d'un avocat intervenant pour la banque et comment se déroule votre travail de défense ou de négociation ?
Alors, moi, je suis saisi par la banque lorsqu'il y a forcément un incident dans la relation avec le client. Donc, première chose, et je rebondis encore sur ce que nous disait notre confrère Axel tout à l'heure, on vérifie si les délais sont toujours OK pour pouvoir engager une action. Et dans ces cas-là, on prévient la banque. Donc oui, le délai est toujours bon ou le délai est dépassé. Si on est encore dans le délai, on engage la procédure. Et on se retrouve à être l'interlocuteur du client qui est assigné. C'est à ce moment-là que nous, on recueille éventuellement une proposition qui pourrait être faite de règlement amiable par le client. Parfois, un accident de la vie, ça peut arriver. On peut avoir besoin de délais de paiement, on peut avoir besoin de moduler les mensualités. C'est quelque chose que nous, on peut faire, puisque on va faire tampon entre la banque et le client. On va récolter les informations que l'on aura glanées du client, les transmettre à la banque et leur dire que, effectivement, il vaut mieux rééchelonner ou trouver une solution pour que tout le monde puisse s'y retrouver, in fine, puisque l'objectif de la banque, elle, c'est de récupérer l'argent qu'elle a prêté, et généralement, les gens qui souscrivent un crédit ont quand même à cœur de le rembourser, donc la meilleure solution reste quand même que ça convienne à tout le monde.
Très bien. Donc, vous parliez de ces délais dont dispose la banque pour poursuivre les recouvrements. C'est quoi comme délai ?
Alors, c'est un délai de 2 ans également. Lorsque l'on arrête de payer son crédit, dans les 2 années qui suivent, on est susceptible de recevoir une assignation.
Est-ce qu'il y a des démarches amiables ? Est-ce que les banques mettent en demeure de reprendre les règlements avant de saisir les juridictions ?
Elles sont obligées en demeure le client de régulariser la situation. Lorsqu'on a un impayé, alors 2 ans, c'est court et c'est long. Donc, lorsqu'on a des impayés, on reçoit généralement plusieurs mises en demeure avant de se retrouver assigné au tribunal. C'est à ce moment-là, évidemment, qu'il faut réagir. L'objectif reste quand même d'éviter l'assignation. Se rapprocher de la banque pour trouver une solution déjà sur les mensualités impayées et puis éventuellement pour l'avenir si on voit que c'est trop compliqué.
Oui, donc la banque, on le voit dans les audiences, vous avez un peu parfois le mauvais rôle, c'est
évidemment
comme les avocats de compagnie d'assurance, et vous êtes méchant, vous voulez récupérer l'argent, je synthétise, mais vous rappelez quand même qu'il y a des mises en demeure, que le dialogue est toujours possible. L'intérêt de la banque, c'est effectivement, vous l'avez, de récupérer ce qui a été prêté. Donc voilà, vous confirmez bien que l'idée est une démarche de dialogue.
Tout à fait. En réalité, nous, on se retrouve à devoir se présenter en audience parce que, justement, ce délai de 2 ans a déjà couru, que l'on a tenté de résoudre le litige amiablement et que, pris par le délai de forclusion, justement, on est contraint d'assigner pour que la banque ne perde pas sa créance.
Ce qui emporte des coûts pour les banques, d'assigner des frais de conseil, des frais de délivrance des assignations, dont on sollicite après le...
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner, lorsque l'on reçoit une assignation de sa banque pour un crédit à la consommation, d'avoir, en plus du remboursement du crédit souscrit, des frais qui s'y ajoutent, qui sont sollicités par la banque, puisque justement, ce sont les frais d'avocat, le coût des actes et le temps que ça mobilise dans ces services d'avoir à procéder à ces assignations.
Et c'est un contentieux qu'on retrouve devant les juridictions de proximité essentiellement, ou ça dépend du montant de l'emprunt ?
Alors,
ou...
le crédit à la consommation est une compétence exclusive du tribunal de proximité, mais le crédit immobilier ne l'est pas.
D'accord, voilà. Donc c'est important de rappeler à quel juge vous adressez et devant quel juge le défendeur doit comparaître. Et juste rappeler peut-être que devant le tribunal du contentieux de la protection, il y a pas, quand vous êtes assigné, vous êtes défendeur, il n'y a pas de représentation d'avocat obligatoire ?
Non, effectivement, l'avocat n'est pas obligatoire. Il est conseillé, évidemment, puisque c'est son travail de défendre vos droits, mais il n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous présenter en personne pour défendre vos propres intérêts.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maître Calvé, une dernière question pour vous en droit de la consommation. Un auditeur nous indique avoir souscrit un abonnement téléphonique sur Internet qu'il s'est rétracté le lendemain, mais l'opérateur a commencé à prélever les mensualités. Qu'est-ce qu'il peut faire ?
Eh ben, il peut dénoncer la situation auprès de son opérateur téléphonique, puisque là, évidemment, sous réserve de ce que je ne sais pas, j'ai pas les éléments, mais il m'a l'air d'être quand même assez précis. Il s'est rétracté le lendemain, donc normalement c'est terminé. Pour mémoire, article L221-21 du Code de la consommation, on dispose dans des contrats souscrits en ligne, à distance, d'un droit de rétractation de 14 jours. Bon, bah là, il est parfaitement dans le délai. Et normalement, on doit le faire, la rétractation, soit par un formulaire type qui est fourni en même temps que la commande, ou par, le texte dit, un moyen dépourvu de toute ambiguïté. Un mail pourrait suffire dans l'absolu. La seule question que je me pose, en fait, en voyant cette question, c'est: est-ce qu'on a bien la preuve de l'envoi ? Tout repose là-dessus, finalement. Il faut qu'il puisse, s'il veut ferrailler hein, avec son opérateur, il faut qu'il puisse justifier qu'il a envoyé sa rétractation sans ambiguïté possible. Et alors, si il est en mesure de courrier recommandé à l'égard de l'opérateur en demandant le remboursement, bien sûr, des mensualités qui ont été prélevées, mais aussi les intérêts de retard. Et ça peut, je vais pas détailler, mais ça peut aller très vite, très haut. Et si vraiment la situation perdure, ça peut, les intérêts de retard, mais en fait, c'est vraiment, ça peut vraiment monter très très haut, 5% au début, enfin, intérêt au taux légal pour commencer, ensuite on passe à 5%, 10%, 20% en fonction du retard.
C'est dissuasif, quoi.
C'est, oui, et normalement, l'opérateur téléphonique, il est censé se dire, je vais arrêter là.
Oui,
je vais arrêter là les frais.
Très bien. Donc la preuve de cette rétractation par mail, ça fonctionne hein,
un mail pourrait marcher, mais j'ose espérer que ce mail a bien été envoyé et à la bonne adresse. C'est l'envoi de ce que j'ai vérifié, c'est bien l'envoi qui compte, non pas la réception.
L'envoi.
L'envoi.
Okay. Très bien. Merci pour ces précisions, parce que souvent les clients nous disent mais j'ai contesté, mais on leur demande comment, par la lettre recommandée. Alors la lettre recommandée reste quand même le moyen de preuve absolue.
C'est quand même ce que je recommande de faire dans l'absolu, hein, bien sûr. Un mail, c'est encore une fois, si c'est bien présenté, si ça a été fait à la bonne adresse.
Oui, c'est une difficulté.
Non, il faut que ce soit à la bonne adresse, hein, aussi, celle qui est dédiée à la réception, peut-être, de ce type de message. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ose espérer que ça a été le cas.
On en a profité pour passer des messages sur les preuves des envois. Merci. Exactement. À vous, Maître Tobayezil. Une dernière question pour vous. Comment vous accompagnez les banques dans la sécurisation de leurs contrats de crédit et dans le respect des obligations d'information envers les emprunteurs ?
Alors nous, on est en bout de chaîne, comme je vous disais tout à l'heure. Donc l'information, elle a déjà été donnée par la banque et le juge, lui, opère un contrôle lors du contentieux pour vérifier que ce conseil a bien été donné. Donc nous, notre rôle en fait auprès des banques, elle est surtout de les tenir informés de l'évolution de la jurisprudence, c'est-à-dire de la façon dont les juges traitent les dossiers, de leurs nouvelles exigences parfois, puisque vous avez des magistrats qui peuvent avoir des exigences peut-être un peu plus poussées que ce que nous précisent les textes. Hein. Les textes sont parfois sujets à interprétation, vous le savez aussi bien que moi. Donc nous, de les tenir au courant en fait de la vie réelle, c'est-à-dire de ce qui se passe sur le terrain, et de dire que aujourd'hui un contrat de crédit qui a été souscrit avec tel type de document ou tel type de document n'est pas assez fourni pour que le juge considère que le devoir de conseil a été respecté, et remonter cette information pour que les procédures internes ou les contrats éventuellement soient mis à jour afin que l'intérêt du consommateur soit respecté et que l'intérêt de la banque le soit aussi, puisque l'intérêt de la banque est d'informer correctement le client.
Oui, alors donc vous êtes dans le Val d'Oise principalement, donc vous parlez de la pratique avocats,
voilà.
Du barreau, enfin des avocats,
des magistrats
je
rencontre dans le Val d'Oise, et évidemment les banques ont des avocats dans tous les ressorts de tribunaux judiciaires, de cours d'appel, et synthétisent toutes les informations qui leur sont remontées pour mettre à jour leurs procédures et leurs contrats régulièrement.
Oui, puisque je le rappelle souvent à ce micro avec mes invités aussi, il y a la règle de droit et il y a l'interprétation qui en est faite par nos magistrats. Et cette interprétation peut varier d'une juridiction à l'autre. Bon, on a des cours d'appel avec des magistrats qui peuvent des fois faire un peu œuvre de régulation en donnant des interprétations qui ont peut-être donné lieu à discussion devant les juridictions de proximité.
Encore, oui, mais encore faut-il pouvoir avoir accès à la cour d'appel, ça c'est...
Ah là, voilà. Et donc, notre excellent confrère Axel Calvet nous invite à parler, pour conclure cette émission, sur une réforme qui va bouleverser nos pratiques et le droit d'accès aux juges de nos auditeurs et des justiciables français. Et nous en parlons juste après une dernière et courte pause musicale.
IDFM, 98FM.
Vous êtes sur IDFM Radio, vous écoutez l'émission Tous les droits. Nous terminons cette nouvelle émission avec mes deux confrères, avocats en droit bancaire et en droit de la consommation. Maître Axel Calvet, vous avez à juste titre préparé cette émission avec moi et vous m'avez dit il faut absolument parler du décret Rivage. Qu'est-ce que c'est que ce décret, mon très cher confrère, pour que nos éditeurs comprennent bien l'enjeu de cette réforme annoncée par le garde des Sceaux?
Alors, ce n'est heureusement pas encore un décret tout à fait, c'est un projet de décret, heureusement. Rivage, pourquoi? Alors attention, chers éditeurs, au Globibulga. Rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience. Rivage. Voilà.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Alors, c'est une initiative de notre garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a annoncé ça à partir de fin octobre. En gros, ça nous est présenté comme un moyen de simplifier la justice civile. Bien sûr, ça ne simplifie rien du tout, comme toujours avec des réformes de cette nature. Très concrètement, il s'agit de relever les taux à partir duquel les taux, les enjeux financiers, on va dire, à partir duquel il est possible de faire appel. Il y a actuellement, pour les enjeux financiers qui sont inférieurs à 5000 euros, vous allez devant un juge et c'est en premier et dernier ressort. Si c'est au-dessus, vous pouvez interjeter appel. Là, il s'agirait de passer à 10 000 euros. Le montant, et mine de rien, ça représente un certain nombre de dossiers. On parlait tout à l'heure des conciliations de justice préalables, le parallélisme des formes, on va dire, pour tous les dossiers dans lesquels il y a un enjeu financier inférieur à 10 000 euros, ça irait, dans ce cas, devant obligation de tenter la conciliation. Il y a d'autres points encore que la réforme, que le projet de décret entend réformer, mais ce sont, on va dire, les plus saillants, les plus critiques. Et depuis que ça a été rendu public, la profession, dans son ensemble, et là je veux dire les barreaux, les syndicats d'avocats, le Conseil national des barreaux, sont vent debout. La FNUJA, je sais, aussi s'est prononcé dessus. Alors, ce qui a changé à partir de novembre, c'est qu'il a été convenu de renvoyer ce projet à une concertation. Concertation qui s'est véritablement ouverte, je crois, le mois dernier, le 4 décembre. Et il doit y avoir une restitution des travaux le 13 janvier prochain en Assemblée Générale du Conseil National des Barreaux. C'est bien ça?
C'est ça.
Très bien. Donc, la profession d'avocat est très mobilisée. Et je tiens à dire, ça n'a l'air de rien en fait, on n'en parle pas beaucoup, et je peux comprendre, parce que c'est technique, c'est moins évident à appréhender que les questions budgétaires en particulier, ou d'autres sujets, mais ça touchera, mais très profondément, les droits des justiciables, les droits des citoyens, et si chacun était en mesure de comprendre ce qui est en train de se passer, mais ça en scandaliserait énormément.
Oui, parce que rappelons que les avocats sont mobilisés pour la défense des droits des justiciables. Je le dis quand même, c'est un peu transformé en les avocats défendent leur paroisse, peut-être, mais on défend surtout les droits de nos clients. Et l'impact de cette réforme annoncée, vous l'avez rappelé, elle est fondamentale et elle est quand même une atteinte significative au droit d'appel, qui est un droit profondément ancré dans notre droit français. Les litiges, finalement, de moins de 10 000 euros, c'est un peu tous les litiges qu'on a évoqués ce matin.
Mais on a évoqué effectivement les dossiers de la justice du quotidien.
Oui, la justice de proximité du quotidien, qui concerne la consommation, qui concerne peut-être des litiges avec des voisins, avec des copropriétés.
C'est ça. Et je regarde mon confrère, je te regarde aussi, mais on a régulièrement, on va pas en appel pour des dossiers de cette nature tous les quatre matins. Ça nous arrive, bien sûr, mais si on estime qu'il y a une erreur, dans ce cas-là, ça justifie qu'on aille en appel. Et
Et il y a des réformations hein, de jugement très fréquemment, à plus ou moins à la marge. Ça peut être du tout au tout, c'est vrai, mais ça peut être sur des points. En tout cas, il y a des réformations et en nous coupant cette possibilité-là, resterait quoi ? Bah, essentiellement le pourvoi en cassation, ce qui est beaucoup plus onéreux.
Oui, c'est très coûteux, ça sanctionne des véritables erreurs de droit, faut faire appel à un avocat au conseil, c'est plus les mêmes avocats.
Mais c'est plus les mêmes enjeux, et ça en découragerait massivement des justiciables qui s'estimeront lésés, peut-être d'ailleurs à raison, parce que le jugement est critiquable et passé à côté de quelque chose d'essentiel, sauf que il faut sortir, la grosse Bertha pour quelque chose qui aurait pu être résolu à hauteur d'appel, ce dont on se serait passé en première instance. Hein. Mais voilà, même cette possibilité-là, on la couperait. C'est vraiment quelque chose de très difficile à admettre.
Oui, donc là, c'est une réforme qui touche la procédure d'appel. On parle aussi d'un filtrage en appel par ordonnance de rejet pour irrecevabilité. Oui. D'ailleurs, c'est un dispositif qui existe devant la juridiction administrative. Hein. C'est ce tri des requêtes d'appel par ordonnance non susceptible de recours. Enfin, l'effet, il est immédiat. C'est-à-dire que on veut aussi vider des stocks privés d'accès pour avoir des juridictions qui fonctionnent, parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'on manque de moyens. C'est quand même la réalité.
Moi, pour conclure, effectivement, le vrai enjeu, il est là. C'est pour la chancellerie, pour l'administration judiciaire. L'enjeu, c'est de vider les stocks et cherchant à remplir cet objectif, il y a une vraie problématique au sens strict, vrai enjeu pour nous d'accès à la justice, d'accès du citoyen à la justice, et on voit que de plus en plus on cherche à le réduire, et on se bat pied à pied pour défendre
ce droit,
cet accès, ce droit élémentaire.
Mais merci en tout cas. Donc les avocats du barreau du Val d'Oise œuvrent pour ce maintien du droit d'appel que nous connaissons pour l'instant. On en reparlera à l'occasion d'autres émissions, et on tiendra informer nos auditeurs des avancées, des discussions avec nos politiques sur ce sujet. Merci à vous deux pour votre compétence, votre bonne humeur pour cette première émission de l'année 2026. Maître Thomas Yézil, vous reviendrez nous voir ?
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Maître Calvé, bien sûr, vous reviendrez nous voir aussi.
Avec joie.
Voilà, j'aime bien cet enthousiasme pour cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été mes invités. Je recevrai donc le premier lundi de chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à vos questions, parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez nous adresser vos questions à l'adresse tldidfm@gmail.com. Le podcast est disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio. Belle journée et bonne semaine.